Sans pitié, le ref clown nous donne 2 minutes. Sur la bande, on se relève malgré toutes les chutes. Le pourparler, c'est devenu une habitude. Sur la bande, c'est là que le sport, on en discute. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la 4e saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les Bess, Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la 4e saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les Bess, Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu 16 ans sur la gazette. Tout un parcours, des gros segments sur nos athlètes. Les 3 étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tire de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout, chaque journée est spéciale. Quand on est là pour se rassembler autour de la table.
Salut Zé.
Salut Seb, ça va bien?
Ça va super bien toi?
Yes, merci.
On est déjà rendu au 4e épisode, déjà juste un peu endormi aujourd'hui, j'ai comme fait une sieste, on peut me réveiller tantôt, là. C'est une journée assez bizarre, je pense que toi aussi t'es arrivé comme sur le fly.
Ouais, un peu, aller-retour Mont-Laurier, Trois-Rivières aujourd'hui, ça fait du short honesty, ça fait que le cerveau est là, mais écoute, on va essayer d'être sharp pareil à soi.
Yes, puis aujourd'hui on a une question pour vous, serait-il temps de peser sur le bouton panique à Montréal avec la défaite de 6-2? Du Canadien.
Hey, ça veut dire cette défaite-là, la défaite contre Rangers, la défaite contre Kraken, la défaite tape.
Non, il y en a une couple de défaites, on pourrait parler.
Il y a de quoi discuter.
Donc, c'est sûr, répondez dans les commentaires, on va en parler avec le ref tantôt. Mais là, on va être prêt pour la mise au jeu de la semaine.
La mise au jeu est une présentation du site surlabande.com. Surlabande.com, c'est quoi? Nos chroniqueurs écrivent des articles. Presque à chaque jour. Le podcast se trouve directement sur le site. Nous avons aussi une section chroniqueurs avec tous les chroniqueurs que nous avons. Donc, sur la bande.com.
Et nos jeux, bon segment à tout le monde.
Donc, okay, salut Olivier.
Salut messieurs.
Ça va bien?
Ça va bien vous?
Yes, merci. Pour les personnes qui nous regardent depuis assez longtemps, Olivier Picard, on en a reçu un, mais joueur. Ici, on a DG, ancien joueur. Fait que, est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il te plaît?
Ouais, écoute, je m'appelle Olivier Picard. Je suis directeur général de l'Armada là, depuis la saison passée. Avant ça, là, évidemment, là, j'ai joué au niveau junior majeur là, pendant 4 saisons. J'ai été repêché là, à Victoriaville. Là où j'ai commencé ma carrière junior là, à 17 ans, à la période des transactions, même un peu avant, là, j'ai été échangé là, à Gatineau. J'ai fini, dans le fond, la saison là-bas. Par la suite, là, durant le camp d'entraînement l'année d'après, j'ai été échangé encore une fois là, à l'Armada. C'était la première édition de l'Armada. Là, le Géant de Montréal a déménagé à Beaubriand.
Okay.
Ça s'est fait durant l'été, là, très rapidement. Puis j'ai joué 3 saisons là, pour l'Armada par la suite, là, fait qu'à 18, 19, 20 ans. Ensuite de ça, j'avais signé un contrat là, dans la East Coast, mais quand tu signes dans la East Coast, les contrats ne sont pas garantis. Fait que j'ai été relâché là, après la première semaine. Et puis là, quand je suis revenu ici, là, Joël m'a appelé et m'a offert une job de recruteur là, pour l'Armada. Donc là, c'est là que j'ai toujours voulu travailler dans le hockey, fait que j'ai commencé à mettre un pied là-dedans. J'ai joué un peu dans la Ligue nord-américaine durant cette saison-là. Par la suite, j'ai commencé dans le coaching. Là. J'étais 3 ans l'assistant entraîneur midget 3 à Magog, en même temps d'être recruteur pour l'Armada. Et puis, après avoir gagné la Coupe de Jimmy Ferrari là, avec Félix Potvin à Magog, j'ai eu l'opportunité là, d'aller assistant entraîneur pour le Phoenix de Sherbrooke. Donc, j'ai été assistant entraîneur 3 saisons avec le Phoenix de Sherbrooke. Après, ensuite de ça, j'ai été assistant directeur général avec le Phoenix pendant 2 saisons pour finalement là, être engagé, revenir avec l'Armada là, comme directeur général là, la saison passée.
Parfait. Puis, quelle équipe dans LNH? C'était ça, la Ligue?
La Ligue nord-américaine, ouais, j'ai commencé pour le Marquis de Jonquière, puis j'ai fini avec les 3L de Rivière-du-Loup.
OK, parfait.
OK, c'est bon. Fait qu'on va en parler plus en détail dans le segment Autour du filet.
Ce segment d'Autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
Autour du filet. Yes. Autour du filet, on va parler un peu. Tu en as parlé de ton repêchage, un choix de 6e ronde, 106e au total en 2010. Tu pensais-tu atterrir avec l'éthique de Victoriaville?
J'avais une bonne entrevue. Honnêtement, j'avais un bon feeling là, par rapport à ma rencontre là, avec l'éthique. Ça n'avait pas tant été une entrevue. Là, avec des questions corsées, ça avait plus été une discussion là, qui avait bien été. Donc, oui, c'était une équipe potentiellement que je sentais qu'il y avait un certain intérêt. Par la suite, j'étais classé de 9 à 12, fait que c'était un peu plus tôt que ce que j'étais classé. Le repêchage dans ce temps-là était un peu différent. Là. Les joueurs de 15 ans pouvaient seulement être repêchés dans les 5 premières rondes. Okay. J'avais pas été repêché à 15 ans. Je n'étais même pas sur la liste. Là. J'étais midget espoir à ce moment-là. À 16 ans, là, sortir en 6e ronde comme ça, c'est un peu comme si cette année-là, tu sortais, il y avait à peu près une ronde de 16 ans qui sortait quand même dans les 5 premières rondes, là, des gars qui avaient été oubliés là, dans le repêchage précédent. Donc, je sortais quand même assez tôt par rapport à mon âge. Donc, je suis quand même content.
OK. Ouais, une règle qu'on n'avait jamais entendue, ça. Parfait. Sinon, ta première saison, tu nous l'as dit aussi, tu as commencé à Victoriaville, tu t'es fait repêcher par eux. Après échange à Gatineau, comment que c'est pour un petit gars de 17 ans? Comment tu l'apprends? Comment tu deals avec ça à une si jeune âge?
Pour moi, j'étais content de l'opportunité parce que je ne jouais pas beaucoup à Victoriaville. J'étais 8e défenseur, je ne jouais pas beaucoup, même que j'avais été retourné là, à Magog. Évidemment, normalement, tu ne peux pas retourner un joueur avant la période des fêtes à cause des sessions de cégep. Mais étant donné la proximité de Victoriaville puis Magog, qui était à peu près 1h15, 1h30, ça se faisait. Donc, il fallait qu'il me demande la permission. Si moi, j'acceptais, là, je pouvais retourner au niveau midget 3, chose que j'ai fait. À ce moment-là, là, quand j'étais descendu, moi, j'étais un défenseur. J'avais joué 8 matchs avec les Tigres, 2 que j'avais pas eu fait aucune présence sur la glace, puis 4 à l'avant. Fait que, j'ai joué 2 games les 2 premières de l'année parce qu'il y avait un défenseur qui était suspendu, puis il y a un autre qui était un camp de la Ligue nationale. Fait que, après ça, j'ai pas rejoué d'autres matchs là, à la défense. Là. Donc, quand j'ai été échangé à ce moment-là, c'était juste une nouvelle opportunité pour moi, puis j'étais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se pose beaucoup de questions non plus. Fait que, pour moi, c'était juste une nouvelle opportunité. Puis...
Fait que ça n'a pas été dur à avaler que tu aies 17 ans ou 19 ans. C'est ça.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je comprends la réalité aussi du hockey. Puis il y a une question de fit aussi. Puis tout ça. Fait que, non, j'étais content d'avoir une opportunité de jouer encore là, dans le junior.
Comme tu l'as dit, au camp d'entraînement, tu te fais échanger à Blainville-Boisbriand leur première année. Comment tu as appris cet échange-là, puis aller vers une équipe qui est quand même déjà bâtie, puis comment tu as réussi à faire ta place?
Bien, c'était une année quand même spéciale, là, cette année-là, parce que je savais que j'étais. Tu sais, que j'allais avoir un bon camp d'entraînement pour rester dans le junior, parce que à mon année 18 ans, donc ma deuxième année, c'est l'année où que les Maniacs de Lewiston se sont dissous. Donc, on est tombé à 17 équipes. Mm-hmm. Fait que des vétérans, si tu veux, comme moi, qui avaient seulement joué à peu près la moitié des matchs à 17 ans, il y en avait trop partout. Là. Mm-hmm. Fait que là, le Junior de Montréal, la saison précédente, c'était leur grosse année avec Louis Leblanc, Trevor Parks, puis tout ça, puis ils n'ont pas gagné, mais il y avait à peu près 14 ou 15, 19 ans cette année-là. Donc, ils étaient complètement vidés. Là. Fait que l'Armada, quand ils ont reçu la formation, tout le monde prédisait qu'on allait finir dernier. Mm-hmm. Et puis, j'ai été chanceux parce qu'avec Gatineau, on jouait nos games hors concours contre l'Armada.
Okay.
J'ai joué deux games hors concours contre l'Armada. Ma dernière game, avant que les équipes se fassent, j'ai eu un but, une passe, une bataille, puis le lendemain matin, j'étais changé.
C'est ça qu'on appelle un taux de chapeau à la Gordie Howe.
Ouais, exact, exact. Ça n'a pas été suffisant pour que je reste à Gatineau, mais au moins, ça m'a permis de rester junior là, et de me faire une place avec l'Armada.
Ouais, effectivement. Puis avec beaucoup de changements d'équipe comme ça, tu as quand même joué ta saison de 20 ans, comme tu nous as dit. Tu nous as parlé que ton échange de Victo à Gatineau, tu n'avais pas mal pris ça. Est-ce que cela est un peu plus dur à avaler ou pas du tout? Puis tu es prêt à passer à autre chose déjà?
Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, je comprends la réalité. Je savais que avec qui un peu j'étais en compétition. L'autre joueur avec qui j'étais en compétition, c'était un choix de troisième ronde de l'équipe de Gatineau. Donc, c'est un peu normal des fois que les. Donne des chances à ces gars-là avant moi qui étais arrivé dans une transaction. Quand j'ai été échangé à Gatineau l'année d'avant, il y avait beaucoup, c'était un moment où il y avait beaucoup de blessures. Eux autres, fait qu'il y avait besoin de gars pour remplacer. Donc, au début, j'ai joué 9 matchs comme joueur affilié. Puis finalement, après ça, je suis resté après les fights. Mais il y avait Hubert Labrie, le capitaine, qui est revenu quand il restait 9 matchs à la saison. T'sais, il s'était blessé, il s'était fait opérer au genou. Fait que je savais que je n'étais pas nécessairement un projet à long terme. Je savais que j'étais là au début pour dépanner. Puis, par la suite, après ça, c'est les cycles. Là, des fois, tu ne veux pas avoir trop de joueurs du même âge non plus. Fait que, mm-hmm. Mais non, encore une fois, ça va vite. Là, je veux dire, je me fais échanger et je ramasse mes affaires à ma pension. J'embarque dans mon char puis j'arrive là-bas. Puis, quand tu arrives à une nouvelle place, ils sont contents de te voir, ils sont contents de t'avoir. Normalement, quand ils font une transaction pour t'avoir, tu sens quand même qu'il y a un intérêt pour toi. Fait que c'est toujours une bonne nouvelle quand même.
Tu as parlé de pension, justement. Si je te parle pas de l'équipe, mais de changer de famille de pension comme ça, si tu déstabilisais un peu?
Je te dirais, dans mon cas, ça ne l'a pas trop été parce que j'ai été des demi-saisons, mettons. Mais exemple qu'après ma troisième saison, mettons que j'aurais eu une autre saison de plus à jouer après mes 3 saisons à Blainville, puis que là, j'aurais été échangé quelque part, ça aurait peut-être été différent. Là. Mm-hmm. Mon lien est plus fort, évidemment, avec ma pension là, que j'étais à Blainville, à Beaubriand, pendant 3 ans que les deux autres où j'étais là une demi-saison. Là.
OK, ouais. On a un bon commentaire de Patrick Côté, si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Olivier Haddad, tu fais une très bonne job avec l'Armada.
Merci.
Oui, c'est ça. C'était leur première saison à Blainville, comme qu'on l'a dit plus tôt aussi. L'ambiance était comment? Est-ce que c'était au rendez-vous et la ville était prête à recevoir une équipe junior?
Ouais, écoute, l'engouement il était très fort là au début là, mes premières saisons là, on a rempli l'aréna là à plusieurs reprises, surtout en séries éliminatoires. Fait que l'engouement a vraiment été bon au début. Moi, les 3 ans que j'étais là, ça n'a jamais été un problème là, les foules.
Okay.
Évidemment, il y avait moins de compétition à ce moment-là. Le Rocket de Laval n'était pas là. Il n'y avait pas d'équipe de. Même la Ligue nord-américaine à ce moment-là, dans les environs, ça ne marchait pas tant que ça. C'était des foules de 500 personnes à peu près. On était vraiment la traite principale là, sur la rive nord de Montréal. Donc, non, les foules étaient très bonnes.
Dernière saison, tu es nommé capitaine de l'équipe. Comment tu l'as appris et comment c'était important d'avoir le C sur le chandail pour toi?
Je l'ai appris, Joël il est rentré dans la chambre puis il l'a annoncé, il me l'avait même pas dit avant, il l'a juste annoncé devant tout le monde là, que j'allais être le nouveau capitaine de l'équipe, donc le deuxième, parce que c'est Xavier Ouellet qui avait été, quand j'étais arrivé, c'était Xavier Ouellet qui était le capitaine, donc il avait été le capitaine de 2 premières saisons. Et puis, pour moi, c'était pas quelque chose nécessairement d'important. C'est toujours glorifiant. C'est que ça veut dire qu'ils reconnaissent ton leadership et ton travail que tu as fait dans les années précédentes. Mais pour moi, ça ne changeait rien. Là, dans... Normalement, lorsque tu donnes le sac à quelqu'un, c'est parce que tu veux juste qu'il continue qu'est-ce qu'il fait. Puis... Mais c'était une belle marque de reconnaissance là, de la part du staff. Là,
Puis Joël Bouchard, il était comment comme coach? Il a eu les trois saisons.
Ben, moi, il était assistant coach, par contre.
Il était assistant coach.
Il était président, directeur général, assistant coach.
Okay.
François Hull, qui était l'entraîneur-chef là, les trois premières saisons.
Mm-hmm.
Mais c'était un bon mix, là, les deux. Évidemment, j'avais affaire avec Joël beaucoup parce que j'étais un défenseur et il coachait les défenseurs, mais il était très bon pour moi. J'étais un défenseur qui commençait à jouer à défense très tard, là, à ma deuxième année Bam-Tam, fait que j'avais quand même des choses là, à travailler. Puis Joël, il prenait le temps puis c'était un très bon enseignant. Là, fait que, non, il a été très bénéfique pour moi là, dans ma progression là, comme joueur.
Ça, je peux te dire que je te comprends. J'ai switché de goaler à joueur midget. C'était plus à ma game.
C'est encore plus. C'est encore un plus gros changement que moi. Là. Il fallait juste que je partine de reculer un petit peu plus.
Ah, mais cette année-là, j'ai fait les trois justement, goaler, défenseur puis attaquant. Là. Moi, j'avais pas le souffle pour être attaquant. J'étais pas bon pour reculer. Puis j'avais plus de fun à défense. Fait qu'écoute. Pas à défense, je veux dire au début. Fait qu'écoute, c'était assez bizarre. Bonne question de Nicolas Mercier. Quelle est la décision la plus difficile à prendre selon toi en tant que DG?
Ben évidemment, le camp d'entraînement, là, quand il faut que tu retranches des joueurs, là, j'ai été à leur place, tu le sais que c'est un rêve. Tu sais que cette journée-là, ils vont sentir qu'ils ont échoué, ils vont sentir que leur rêve est peut-être moins possible. Fait que c'est sûr que c'est des décisions qui ne sont pas le fun à faire, à prendre.
Mm-hmm.
Je dirais que c'est ça. Sinon, le reste, je veux dire, c'est pas des décisions, premièrement, qui se prennent tout seul. La plupart des décisions que je prends, on est plusieurs à se consulter pour prendre les décisions. Donc,
Parfait. Mm-hmm. Cette question nous vient de Philippe, qui est un fan de l'Armada, en passant. Est-ce que tu crois qu'on va gagner? Est-ce que tu crois, dans le fond, vous allez gagner le trophée Gilles Courteau? Même si c'est loin encore, mais bref. Est-ce qu'on y croit?
Écoute, si on ne ferait pas du hockey pour gagner, on n'en ferait pas pantoute. Par contre, on est une équipe encore jeune. La Ligue de hockey Junior Maritime Québec, il ne faut pas se le cacher, c'est une ligue de 19 ans. En général, quand on dit une ligue de 19 ans, c'est quand la majorité de tes joueurs ont 19 ans normalement ou que ton équipe est à maturité, que j'espère remporter les grands honneurs. En ce qui nous concerne, j'en ai deux joueurs de 19 ans. Donc, on est encore peut-être une année là, avant de pouvoir dire qu'on aspire vraiment à remporter le trophée Gilles Courteau. Mais on a quand même des joueurs, là, des excellents joueurs dans notre formation. On est une équipe avec une identité qui travaille fort. Donc, quand tu arrives en série, tout le monde qui font les séries... Lorsque ça commence, il y a une chance de remporter le trophée. Donc, on a-tu des chances de la remporter? Oui. Mais selon le cycle qu'on est rendu, c'est plus la saison prochaine là, qu'on aspire au grand moment.
Moi, Philippe, je te dirais, le hockey, ça joue sur la glace. Tout est possible, peu importe quel joueur qu'on a dans l'équipe. Sinon, Mathieu Duguay, lui, qui est fan des Olympiques de Gatineau, il sait que tu n'as pas joué longtemps là, mais ça a été quoi ta réaction sur la discussion? Voyons, tabarouette. Destruction du centre Robert Gertin. On va la voir.
Ouais, ça fait spécial. Écoute, c'est un aréna mythique. Quand je jouais là, tu sentais l'histoire, tu sentais. Tu pouvais sentir là, à travers les murs là, toutes les coupes qui ont gagné, tous les joueurs qui ont joué là. Je te dirais, l'année que j'ai été là, on a perdu en finale, par exemple. Là, quand il commence à faire chaud dehors, c'est un peu moins le fun. Là. Il faisait chaud. Fait, évidemment, c'était un aréna qui était rendu désuet. Il faut dire qu'ils sont quand même assez gâtés. Là, leur nouvel aréna, le centre Roche Poppy est vraiment magnifique. Mais c'est sûr que ça fait spécial là, de savoir qu'un endroit avec autant d'histoire là, soit démoli comme ça.
Sinon, Denis Couture sur YouTube, que préfères-tu dans ton poste et quelles sont tes forces d'après toi?
Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'aspect d'avoir un plan, puis de suivre le plan, puis de construire, puis voir l'évolution de ce que tu veux construire là, au fil des années. Évidemment, ça fait juste un an et demi que je suis là, fait que j'ai pas fait beaucoup de choses encore, puis de voir les résultats, ça va venir éventuellement, mais c'est vraiment ça que j'aime le plus dans ce travail-là, puis c'est vraiment pour ça que j'ai toujours voulu faire ce travail-là. Puis pour revenir à ma force, je pense que ça vient un peu à ça. Quand j'ai un plan, je le suis, puis je suis assez calme puis réfléchi dans mes décisions pour pas m'égarer dans ce plan-là, parce que c'est facile là, au niveau junior, des fois, avec des opportunités que tu peux avoir de mettre la main sur un joueur ou des choses comme ça, de sortir un peu de ton plan, mais je pense que c'est ça qui est ma force là, comme directeur général.
Parfait. Patrick Côté, c'est des bonnes questions, mais personnellement, si j'étais directeur général, je ne répondrais pas à ça, fait qu'on ne la posera pas. Tu as vu Samuel Montabeau dans le vestiaire pour 15 parties. Quand il est arrivé, comment il était comme personne, comme joueur, comme coéquipier?
C'est sûr, quand les gars, c'est difficile. Là, quand les gars, c'est leur première année, même chose pour moi quand j'étais première année. Les gars sont toujours un peu plus distraits, sont toujours un peu plus tranquilles. Fait que j'ai peut-être pas la description parfaite de décrire comment il est là, dans le vestiaire. Mais c'est un gars très calme. Là. C'est un gars, il n'y a rien qui l'affecte. Là. Je peux donner un exemple. Lors de son année 17 ans, on a joué contre l'Océanique de Rimouski en deuxième ronde des séries éliminatoires. Puis après la première période, la game 7 à Rimouski, on perdait 4-0 après une période. Et puis, les coachs, ils ont dit que c'est lui qui allait embarquer en deuxième période. Mais moi, je n'ai pas vu les entraîneurs lui dire. Puis, comment il était dans le vestiaire, jamais tu aurais pensé qu'il s'en allait dans le net. Là. Il était assis, il était lâché, tranquille, comme si de rien n'était. Le gars, il goalait 0 game de playoff encore dans la ligue. Puis, il avait l'air d'un gars qui s'en allait prendre une marche dehors là, avec son chien. Là. C'était super calme. Fait que c'est un peu ça, comme ça que Sam y était là.
Question de Nicolas, il y a beaucoup de commentaires ce soir. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question, mais le club avec qui tu as le plus de facilité à négocier?
Oh boy! À date, j'ai fait deux transactions avec Bécomo, fait que je te dirais que ça n'a pas été des négociations trop longues non plus, mais je connais JF, ça fait longtemps, là, on vient de la même... région, là. Il vient de Sherbrooke, puis moi je viens de Waterville, un petit village proche de là. Quand j'étais joueur, je jouais dans sa ligue là, le mardi soir. Là. On avait une ligue, les joueurs professionnels puis juniors là, à bout de souffle qu'on appelle. Fait que c'est lui qui s'occupait de ça. Fait que ça fait longtemps que je le connais. Donc, toujours eu la facilité là, à négocier avec JF. Mais...
Parfait.
La saison suivante, tu es nommé scout pour l'Armada. T'avais-tu déjà envisagé de faire carrière comme scout ou GM après ta carrière de joueur?
Non, même quand je jouais, là,
ouais,
j'étais midget 3 puis je me faisais écœurer par mes coéquipiers puis je disais que j'allais devenir GM ou scout un jour. Fait que toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Là, fait que, même comme joueur, puis dans mes dernières années, là, j'avais des discussions avec Joël même quand je jouais puis il me demandait mon avis des fois sur des joueurs. Puis des... Ça ne veut pas dire qu'il tenait en compte qu'est-ce que je disais, mais il me demandait tu penses que ça vaut quoi puis des choses comme ça. Fait que, il a toujours senti mon intérêt pour ça, puis il l'a alimenté un peu, là, même quand je jouais encore.
OK.
Fait que, par la suite, assistant coach à Magog pendant 3 saisons, si on ne se trompe pas. Ouais. Comment c'est important d'encadrer nos jeunes M18 ou Midget 3A?
Ah, c'est vraiment important. Écoute, c'est un moment, là, je pense, dans le développement qui est crucial. Pour nous, à Magog, on avait une philosophie là, où que, évidemment, les jeunes à cet âge-là, ils payent encore. Donc, on faisait sûr que tout le monde avait sa part de temps de jeu. Pour moi, c'est important que les défenseurs, tout le monde joue. C'était ma responsabilité de faire en sorte que le joueur soit capable de jouer un certain nombre de minutes. Évidemment, il y a toujours les unités spéciales là, que tu ne peux pas faire jouer tout le monde, mais... Mm-hmm. De notre côté, là, c'était quelque chose qu'on trouvait important dans le développement. Puis de toute façon, on jugeait qu'on allait avoir une meilleure équipe à la fin de la saison si on travaillait avec tout le monde et qu'on donnait l'opportunité à tout le monde d'avoir leur temps de jeu, je dirais pas égal, parce que c'était pas égal. Si je te dirais, mon meilleur défenseur devait jouer 22 minutes, puis mon sixième défenseur jouait entre 17 et 18 minutes. Là. Puis c'est souvent c'est le power play qui faisait une différence là, dans le temps de jeu. Au niveau de l'encadrement, c'est très important parce que tu dois les préparer. Je veux pas, ils ont des rêves, puis tu dois les préparer à ça. Le junior majeur, c'est pas un niveau facile, c'est pas un niveau exigeant. Donc, tu veux leur donner les ressources pour qu'ils soient prêts quand ils arrivent là-bas parce que tu n'as pas 8 chances là, au niveau junior. Donc, c'est vraiment ça qui est important là, pour les entraîneurs au niveau M18-3. Oui, tu veux les aider à progresser au niveau des habiletés, au niveau de leur game en général, mais il y a aussi le côté là, mental puis tout ça pour être sûr qu'ils sont prêts et qu'ils ne fassent pas le saut quand ils arrivent au niveau junior.
Parfait.
En 2018-2019, tu es nommé assistant coach à Sherbrooke pendant 3 saisons. Comment le bagage à Magog t'a aidé à aller en arrière du banc avec vous, mettons?
Ben, ça m'a aidé, c'est sûr, parce que ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais fini d'être un joueur. Donc, ce côté-là, ma relation avec les joueurs, puis le fait d'avoir vécu un peu tout ce qu'ils vivent, ça, je l'avais. Mais la gestion de banc, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu le vives pour l'apprendre. Mm-hmm. Puis au niveau junior, c'est quand même impressionnant la vitesse du jeu. Donc, si tu n'as jamais fait ça, je pense que ton adaptation a été pas mal plus difficile. Mm-hmm. Puis aussi, veux pas, les joueurs sont pas niaiseux. Là. Quand tu dis quelque chose à un gars, exemple, que tu n'as jamais coaché, puis tu arrives, puis tu commences à lui dire des affaires, puis le gars, il est l'élite de son âge, ça se peut qu'il fasse pas confiance, si tu n'as pas un certain background. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu ça que mon séjour à Magog là, m'a amené.
Parfait. Question de Mathieu, a de l'air un peu compliqué, mais bon. Quel est le plan de match si la rencontre doit être annulée comme l'année dernière contre Gatineau? Il avait eu un dégât d'eau.
Ouais, ben là c'est... tout le monde est sur le téléphone. Là. Tout le monde est. Fait que là, après ça, tu parles à la Ligue. Là, c'est la Ligue généralement qui prend la décision de dire OK, on annule le match ou non. Mm-hmm. Par la suite, on va appeler. Encore une fois, à la Ligue, là, à ce moment-là, c'était Raymond Bolduc. Lui, il va regarder les horaires des deux équipes. Il va comme trouver des dates qui font du sens pour les deux équipes. Tu ne veux pas te retrouver qu'une équipe joue 4 games en 5 soirs, par exemple. Fait que lui, il va cibler un peu des dates. Généralement, il va me les proposer à moi en premier parce qu'on était l'équipe à domicile. À ce moment-là, moi, j'ai comme choisi une date. Après, par la suite, j'ai contacté Gatineau pour voir si c'était correct avec lui. Puis là, au moment où que lui a accepté, là, on a confirmé avec la Ligue, là, tout a été transféré. Au niveau des billets, tout ça, honnêtement, je ne m'occupe pas de ça. Là, fait que je ne peux pas dire qu'est-ce qui a été fait. Là. Puis ils sont rentrés avec leurs billets du match de l'autre date. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. De ce côté-là, je ne peux pas répondre.
Pour autre chose qui n'est pas de ton ressort, je pense, mais on a vu le troisième chandail ou je ne sais pas quoi, bleu-noir, tabarouette, ils ont de l'allure.
L'image en plus.
Ah ouais, ok. D'après moi, ça doit être Mathieu qui faisait ça, mais c'est ça qui nous a dit.
Ouais, Mathieu. C'est Mathieu avec Karim qui travaillait là-dessus. Là, ouais.
Fait que ici on a les. Ben là, c'est écrit en petit, je suis pas capable de lire, là, mais on a les explications du pourquoi tel truc a été choisi, mais honnêtement, le jersey est parfait.
Ça, il y avait déjà un troisième chandail aussi, le monde qui disait il était comme Guy, là. J'ai aussi la photo. Là. Ce chandail-là aussi, c'était quand même aussi beau, mais je trouve le bleu, il est vraiment, ouais. Il est vraiment comme attirant.
Ce chandail-là a été retiré là, pour différentes raisons, mais.
OK.
C'est comme le. C'est en lien un peu avec nos propriétaires à l'époque, puis tout ça, le Vidéotron. Okay. Tout ça, mais ce chandail-là, il a été retiré. Là.
OK, c'est bon.
D'après moi, ça change absolument rien. Mais mettons, en tant que DG, là, dans la Ligue nationale, il y avait des reverse rétro il y a je ne sais pas combien d'années. Ça serait-tu cool d'avoir ça dans la LHMQ ou on s'en fout?
Ben, c'est toujours une question de budget. Je veux dire, ça coûte cher faire des chandails. Déjà, les équipes en font faire quand même beaucoup au niveau des thématiques. Mm-hmm. C'est vraiment... Tout est question de rentabilité aussi. Là. Je veux pas, c'est un petit business. Il y a des équipes, on le sait, qui font beaucoup d'argent. Il y a des équipes qui break even. Puis il y a des équipes qui perdent de l'argent. Fait que, il n'y a pas d'argent qui est jeté par les fenêtres là, au niveau de dire « Ah, ben c'est beau, on le fait. » Ça prend des événements alentour de ça. Fait que, je te dirais, une équipe pourrait le faire. Puis il y a des équipes qui le font. C'est, je pense au cataract de Shawinigan là, quand ils ont fêté, je pense que c'était leur 50e anniversaire ou je ne sais pas combien, mais il y avait toutes sortes de chandails, là, des vieux chandails qui ont porté dans le passé. Mais nous, jusqu'à date, ça serait dur de nous faire un reverse retro. On a juste eu un, le chandail officiel. Ça serait plus compliqué là, d'en faire un.
Parfait. Puis une question qu'on a déjà posée aux joueurs. Là, je sais que c'est-tu la première saison qu'il y a 4 matchs d'enlever? Fait que ça tombe à 64 matchs, OK.
Ouais.
Fait que, écoute, ça répond peut-être un peu à ma question, mais une fin de semaine, genre match des étoiles, ça pourrait pas être intéressant au niveau junior?
Oui, je te dirais, tu sais, la OHL, ils vont le faire. Là. Mais en fait, c'est pas un match des étoiles qu'ils font, c'est un match des meilleurs espoirs là, pour le repêchage de la Ligue nationale. Je te dirais, la différence entre l'Ontario, mettons, puis nous, c'est que la plupart des équipes en Ontario sont toutes à 2 heures de route. Là. Fait qu'au niveau logistique, au niveau voyagement, encore une fois, c'est tout le temps une question de coût. Ça leur coûte pratiquement rien, eux autres, le faire. Nous, tu es obligé de flyer des gars de Halifax, de Moncton. Fait que c'est tous les coûts, encore une fois, qui devient plus difficile là, étant donné notre territoire là, qui est très grand.
Oui, effectivement. Okay. Seb, on va continuer. Je vais te laisser à la prochaine.
Ouais, après 3 saisons, tu es nommé assistant DG à Sherbrooke. Ça te manquait-tu un peu d'être derrière le banc de l'équipe quand tu as pris la décision?
Ben, c'est sûr que au jour le jour, là, ça, c'était vraiment différent. Tu n'es pas impliqué dans les activités de l'équipe. Tu n'as pas de connexion avec les joueurs. C'est vraiment différent. C'est beaucoup du travail là, tout seul, un peu, si tu veux. Là. J'étais dans mon char et j'allais voir des matchs. Là. C'était ça mon rôle. Puisque Stéphane il était entraîneur et directeur général, lui, il n'avait pas l'opportunité là, d'aller voir autant de matchs que moi. Là, à cause que, évidemment, il faut qu'il coache notre équipe. Fait que, c'était vraiment différent. Là. Fait que c'est sûr que oui, tu ne vis pas les matchs de la même façon non plus. Là. Nos matchs, tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de décision à prendre durant le match. Tu es assis et il se passe ce qui a à se passer. Là, fait que, mais oui, ça me manquait, mais... Si j'ai le choix entre les deux encore, j'aime mieux ce que je fais là que coach. Ouais.
OK. Tu as parlé de lien avec les joueurs. Est-ce que, genre, là, en ce moment, tu es juste DG, pas entraîneur. Est-ce que, justement, ça peut être un peu plus facile à les échanger sans avoir de lien? Vu que tu n'as pas de lien, c'est ça, je veux dire.
Ouais, définitivement. Définitivement. Je veux dire, c'est pas des décisions émotionnelles. C'est des décisions hockey, comme on dit. Ouais. Lorsque tu échanges un joueur, donc, c'est sûr que c'est plus facile à prendre quand tu n'as pas de lien direct avec le joueur. Évidemment, quand je les croise, je passe pas à côté et je leur dis pas salut. Là. J'ai des discussions avec les gars pareil, mais c'est pas la même chose là, que quand que tu passes, honnêtement, quand tu coaches, tu passes probablement plus de temps avec tes joueurs que tu passes avec tes enfants. Là, fait que, moi, j'en ai pas, là, mais je pense à mes coachs qui en ont, Mathieu qui en a et Kevin qui en a, mais. Tu passes quasiment plus de temps avec les joueurs qu'avec tes enfants. Là, fait que c'est sûr qu'il y a des liens qui se créent. Fait que c'est sûr que comme DG, de ne pas avoir ce lien-là, c'est plus facile.
Évidemment. Parfait. OK, là, je t'avais parlé hors ronde d'une question qui me trotte depuis longtemps. Là, c'est le temps. T'es prêt? Lorsque c'est le temps de faire des échanges, comment pouvez-vous retenir tous les choix de repêchage que les équipes ont? Est-ce que vous avez genre une fiche physique que la Ligue vous envoie, un logiciel Internet? comment ça fonctionne?
Ouais, c'est un fichier Excel là, que la Ligue elle envoie
okay.
assez souvent. À chaque fois qu'il y a des modifications, dans le fond, elle l'envoie. Mais moi, ce fichier-là, je le garde. Quand il y a un échange qui est annoncé, je le bouge moi-même. Fait que, même si elle ne l'enverrait pas, je le tiens à jour là, tout le temps. Là, fait que, ouais. Je te dirais, qu'est-ce qui est le plus dur, c'est les choix qu'ils ont, mais qu'ils n'ont pas. Là, t'sais, quand il y a des échanges qui ne sont pas complétés ou il y a des compensations, des choses comme ça, mais là, des fois, elle va te dire « Ah, je t'offre ça. » Comme là, tu ne l'as même pas. Elle dit « Ah, je vais l'avoir. » C'est là que ça devient un peu plus compliqué, mais sinon, oui, là, on a une charte de 3 ans là, avec tous les choix de tout le monde.
Okay, parce que c'est sûr, à un moment donné, ça devient compliqué. Là. Il y a quoi? Il y a 14 rondes juniors?
On se tombe à 12. Là. Fait que,
12, OK. Mais 12 rondes juniors, je veux dire, à un moment donné, tu sais plus, il est rendu où ton 10e choix?
Oui, quel choix. Nous, on le sait. On le sait, puis on voit même par où il a passé. Puis tout ça, fait que,
OK, ouais, ben c'est ça. Ben, vu que vous avez ça, vous le savez. Mais si tu ne ouais. l'avais pas, ça commencerait à être plus dur un peu. Ouais,
c'est plus compliqué.
Ouais.
Okay. Lors de la saison 2023-2024, tu es nommé DG de l'Armada. Quand j'ai écrit ça, tu as une jeune équipe entre les mains. Comment tu vois ton rôle un peu comme directeur général?
Ben, comme je vous ai expliqué un peu tantôt, la première chose que j'ai fait, c'est d'établir un plan, une direction vers laquelle je voulais aller. Mm-hmm. Par la suite, là, c'était de faire les mouvements nécessaires pour faire sûr que ce plan-là soit solide. Donc, si je pense, c'est notre noyau, c'est des joueurs nés en 2006, là, avec Justin Carbonneau, Vincent Desjardins. On a aussi des bons 2007 avec Mathéo Nobert, Xavier Villeneuve. J'ai été chercher un Alexandre Carbonneau durant le camp d'entraînement. Qui était un 2006. On était très petit à la défense à ce moment-là. J'allais chercher un joueur de C4 que je pensais qu'il pouvait avoir une belle progression. Puis, Olivier Filaire, c'est un 2006. Je pense que j'ai 12 ou 13 joueurs nés en 2006. Là. J'ai été chercher Olivier Lemieux à la période des transactions l'an passé à Bécomo. Donc, mon noyau est vraiment dans ce groupe d'âge-là. Mm-hmm. C'est la raison pourquoi on a échangé Charles-Édouard Gravel l'an passé pour rentrer un choix de première ronde, mais c'était vraiment pour solidifier ma banque de choix parce qu'on le sait que quand tu tombes du côté des acheteurs, ça coûte très cher. Mm-hmm. Et puis quand j'avais passé mon entrevue là, avec l'Armada, quand je leur ai expliqué mon plan, je leur avais dit que oui, je voulais ramener un championnat à Beaubriand, mais que je ne voulais pas non plus que l'équipe soit hypothéquée à la fin.
Mm-hmm.
Pour ça aussi que je voulais être sûr d'avoir une banque de choix solide pour pouvoir faire oui, des achats et faire sûr de faire l'acquisition des joueurs que je cible, mais aussi qu'il en reste là à la fin. Okay.
Ben oui.
C'est ça, l'année passée qu'il y a eu cet échange-là, je trouvais tellement que c'était une bonne échange. Vous avez donné Charles-Édouard Gravel contre Olivier Carlo puis un premier choix en plus. C'est tellement un bon move pour l'Armada puis la banque des choix.
Oui, puis écoute, t'en parles à Bécomo, ils sont satisfaits aussi. Là, je
dis, non, c'est ça.
Et Charles-Édouard, c'est un bon gardien. Il a bien fait pour eux aussi. Fait que, il n'y a pas toujours. Souvent, on cherche toujours un gagnant et un perdant dans un échange, mais des fois, il n'y en a pas. Là. C'est juste le contexte de chaque équipe, où ce qu'elle est dans son cycle, puis tout ça, ça peut être favorable pour les deux.
Parfait. On a deux questions du public qui se ressemblent un peu, dans le fond. Comme DG, as-tu le temps d'évaluer les espoirs midget en vue du prochain repêchage? Et Alain Monette qui demande « Que penses-tu du repêchage 2025? » Fait qu'on peut un peu répondre les deux en même temps.
La réponse, c'est oui. Par contre, pas à ce moment présent. Dans le fond, la façon que moi je suis là, ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. En ce qui me concerne, moi, avant la période des transactions, donc, avant les fêtes, je vais aller voir beaucoup de juniors. Pour avoir beaucoup de matchs juniors, je m'arrange pour voir toutes les équipes au moins 2 fois en personne. Parce que là, bon, évidemment, tu peux voir les joueurs qui t'intéressent, mais c'est aussi d'établir la valeur que ce joueur y a. J'aime pas ça dire ça, là, parce que c'est pas des objets, là, mais au niveau de qu'est-ce que tu penses que ça pourrait coûter comme choix au repêchage puis tout ça. Donc, moi, je me concentre beaucoup là-dessus avant la période des transactions. Une fois que la période des transactions est terminée, donc après le 6 janvier, là, je vais aller voir beaucoup moins de games juniors. Je vais aller voir beaucoup plus de games M18-3A pour préparer le repêchage. Malgré tout ça, je m'arrange pour voir toutes les équipes M18-3A au moins une fois avant le challenge à Châteauguay. Okay. Parce que là, il y a 3-4 games en même temps, puis ça va vite. Fait que si tu n'as pas vu les équipes, là, tu es tout le temps dans tes papiers, puis c'est qui le 18, c'est qui le... Fait que là, finalement, la game, tu n'as rien vu. Là. Fait que tu assures d'avoir quand même une bonne idée des joueurs avant le challenge. Mais oui, on a le temps là, de le faire. C'est pas mon rôle principal. Là. C'est l'équipe de recruteurs vraiment qui... Je vais soutenir l'équipe de recruteurs là, plus après les fins.
Hey, il y a une petite partie dans ta réponse là, qui m'a fait, dans le fond, qui m'a allumé une cloche. Tu sais, mettons, moi, je me pense basement à jouer à NHL 25, puis là, faire mes échanges avec la petite jauge. Là. Mais toi, comment tu peux savoir qui vaut, ben, sans dire vaut, là, comme, vu que tu n'aimes pas ça, mais qui vaut quoi? Comment tu peux faire ça? Genre, est-ce que c'est du hockey knowledge? C'est comment?
Ben, en fait, moi, de mon côté, la façon, quand j'étais assistant directeur général à Sherbrooke, je me suis monté un document. Donc, j'ai pris toutes les transactions du passé. J'avais reculé à ce moment-là d'à peu près 5 ans. Puis, j'ai vraiment classé les joueurs par groupe d'âge. Par exemple, les échanges de joueurs de 20 ans qu'il y a eu, les échanges de joueurs de 19 ans, 18 ans, 17 ans. Et puis, avec leurs statistiques, qu'est-ce que ça a coûté, ça a été quoi la transaction. Mm-hmm. Fait que, une fois que, exemple, que je cible un joueur ou quelque chose, j'essaie d'y trouver un comparable. Et puis après ça, ça me donne une idée du prix, de qu'est-ce qui peut être sa valeur. Mais là, ensuite, ça dépend toujours des besoins de l'équipe avec laquelle tu négocies. Si une équipe aimerait mieux avoir un joueur en échange qu'un choix, évidemment, là, c'est là que ça devient plus compliqué. Là. Ben, pas plus compliqué, mais là, ça peut être une question de préférence. Qu'est-ce que le directeur général y aime? Puis, je dirais, qu'est-ce qui est le plus dur au niveau de la valeur, des fois, à identifier, c'est le marché. C'est ceux qui sont après le même joueur. Le prix, les enchères montent. C'est la même chose qu'une maison. La maison, elle vaut peut-être bien 250 000, mais si on est 6 qu'elle veut, ça se peut qu'elle vende 350 000. Là, t'sais. Fait que, c'est un peu comme ça aussi au niveau des transactions. Donc, c'est à toi d'établir tes limites jusqu'où tu es prêt à aller. Puis, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai vraiment des comparables. Tu essaies de trouver des comparables. C'est un peu comme ça que tout le monde travaille.
Puis encore, dans le même type de question un peu, il y a quelques années, me semble, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu que comme la OHL, ils n'ont pas le droit d'échanger leur choix de première ronde ou quelque chose comme ça, parce que sinon, genre, ça stoppe trop leur reconstruction, leur rebuild. Tu penses quoi de cette règle-là? Est-ce que ce serait quelque chose de bien? Est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes échanger tes choix de première ronde, une bonne monnaie d'échange, mettons?
Ben, tu sais, ils ont créé un autre problème en faisant ça. Là, nous, on a accès à seulement 3 ans de nos choix au repêchage. Fait que là, présentement, j'ai accès à mes choix pour le repêchage 2025, mes choix 2026, puis mes choix 2027.
Ouais.
Oui, je peux échanger mes choix de première ronde, mais je n'ai pas accès à mes choix de 2028, je n'ai pas accès à mes choix de 2029. Je ne peux pas bouger ces choix-là. Dans leur cas, ils ne peuvent pas bouger les choix de première ronde, mais ils peuvent échanger leur choix de deuxième ronde en 2030. Là, fait que là, ça donne des échanges où ils donnent plein de choix de deuxième ronde, plein de choix de troisième ronde. Il y a des situations, je te donne un exemple. Une équipe va repêcher un joueur, là, il y en aura évidemment probablement plus, là, mais repêcher un joueur récalcitrant qui ne veut pas venir, il ne réussissait pas à le convaincre. Là, comme par magie, exemple, les Knights de London, eux autres seraient capables de le convaincre. Fait que, là, les Knights de London allaient le chercher, mais ils n'ont pas payé un choix de première ronde pour ce joueur-là qui a été repêché première ronde parce qu'ils ne peuvent pas échanger de choix de première ronde. Fait que, là, l'équipe qui a repêché ce gars-là ne va pas aller chercher la pleine valeur de ce joueur-là à cause de ça. Fait que, ben, si ça n'a pas juste du bon. Là. Ouais. Ensuite de ça, comme organisation, tu as toujours le choix. Là, tu ne veux pas les échanger, puis tu veux les garder. T'sais, au bout de la ligne, ce que ça fait au niveau junior majeur au Québec, c'est que ça se promène. Fait que tu vas te retrouver une année, tu vas drafter trois fois en première ronde, puis tu vas te retrouver une autre année où tu ne repêcheras pas en première ronde.
Ouais. Parfait. Puis tu sais, c'est comme ça doit un peu expliquer le fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ben Seb, peut-être que tu te souviens. Olivier, je ne sais pas si tu es fan des Canadiens, mais bref, Caden Gooley, quand il était dans le junior, c'était une transaction monstre. Il devait avoir 10 choix de repêchage là-dedans. C'était n'importe quoi. Sinon, ouais, pour revenir pour revenir à nos questions, d'après nos recherches, le premier joueur que tu as été chercher est Alexandre Carbonneau. Est-ce que tu te rappelles de l'échange? Probablement. Mais, mettons, avec la vue, je veux dire maintenant, tu offrais ce échange-là probablement n'importe quand, chaque jour.
Ouais, effectivement. Effectivement, mon coach de défenseur me dit souvent, c'est probablement la meilleure transaction que tu as faite. C'est de cibler des gars. Comme je vous ai dit, on était petits à la défense. C'est un gars que même lorsque j'étais avec Sherbrooke, j'avais dit à Stéphane, on avait déjà contacté Sylvain Couturier pour lui demander si c'était quelqu'un qui pouvait être disponible. On a un tableau là, avec les portraits de toutes les équipes. Fait que souvent, tu le vois, là, okay, le gars, il fait peut-être pas partie du portrait là, parce qu'ils sont. Des fois, c'est pas que le joueur n'est pas bon, c'est juste qu'il y en a trop qui sont peut-être le même niveau. Fait que tu sais qu'ils vont en bouger un de ceux-là. Donc, fait que c'est un gars qui t'intéresse, t'appelles, puis tu demandes si c'est possible qu'il bouge. Donc, c'est un peu ça là, qu'on a fait avec l'Armada. Écoute, on a un gars, un vétéran en Bec Majdel qui nous avait appelé, qui m'avait appelé probablement la semaine avant le camp d'entraînement pour dire que finalement, il arrêtait de jouer au hockey. Là, fait que je suis tombé dans une situation où il fallait que je trouve quelqu'un que je pense qu'il était capable de jouer. Puis c'était mon premier choix. Puis on était plusieurs équipes là, qui étaient dessus, donc j'ai été quand même chanceux là, de mettre la main dessus.
Okay.
Le repêchage 2023 était intéressant pour l'Armada. Deux sélections, malheureusement, tu n'étais pas là. Xavier Villeneuve, Mathéo Meubert. Comment bien encadrer ces bons jeunes-là qui ont été choisis en première ronde?
Ben en fait, c'est évidemment, c'est de leur donner des opportunités. Écoute, c'est des gars avec du talent. L'an dernier, les deux, ils ont eu leur part de responsabilité. Ils ont eu du power play. Ils ont joué tous les matchs. Ils n'ont pas été... ils ont eu des blessures, là, mais ils ont été scratch. Un gars comme Mathéo Nobert avait un gars comme Jonathan Fauchon qui avait passé, qui avait été aussi un choix de première ronde. C'était des gars similaires dans le sens où peut-être que physiquement, ils n'étaient pas nécessairement prêts à jouer junior majeur à 16 ans, mais ils étaient intelligents et qu'ils étaient des excellents joueurs de hockey. Donc, c'est un peu de ça. Là. C'est d'avoir des bons vétérans alentour là, pour les encadrer et les juger là-dedans. C'est de leur parler beaucoup aussi. Les entraîneurs aujourd'hui, là, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de rencontres. C'est un peu comme ça là, qu'on encadre nos jeunes. Là. Que ce soit eux ou que ce soit un autre, là, je dirais. Okay. C'est pas complètement différent pour un gars qui a été repêché 8e ronde. On offre le même encadrement à tout le monde. Mais c'est sûr que c'est des talents particuliers. Là, fait que c'est sûr que tu fais attention et que tu vas être sûr qu'ils réussissent.
Parfait, ça. Fait que Seb, je pense qu'on va être prêt à la mise en échec.
Yes, on y va à la mise en échec.
La mise en échec est une présentation de CAG Sport pour des Raz de cartes d'hockey, vente et échange de cartes sportives de toutes sortes et futur break de boîtes de cartes. Consultez la page Facebook CAG Sport.
Parfait. Fait que mise en échec, c'est là qu'on a des anecdotes. Des fois, ils sont drôles si on a les bonnes plugs. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, ça sera peut-être pas drôle, mais bref, combat contre Vincent Arsenault, si je me trompe pas, c'est le joueur du Rocket, hein, Seb?
Ouais, ben c'est ça, on a la vidéo, on peut parler en même temps. Là,
Claude. Celui qui sort placer le doigt, là?
Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Ouais, t'as eu plusieurs combats à ta fiche dans ta carrière, ça, j'ai vu sur YouTube.
Ouais, j'en ai eu une coupe.
Y en a-tu des plus mémorables que d'autres? Y en a-tu un en particulier que tu te rappelles plus? Comment ça se passe un combat?
Non, je me souviens de pas mal tous mes combats, honnêtement. moi, j'étais quelqu'un qui aimait ça. Là. J'étais quelqu'un de. J'étais pas gros là, au niveau junior, je faisais 155 livres. Là, fait que, quand j'affrontais des gars comme Vincent, justement, les chances que je gagne n'étaient pas très élevées. mais c'est quelque chose que j'aimais l'adrénaline de ça. J'étais un gars qui jouait intense aussi. J'étais un gars qui est quand même protecteur. J'aimais ça défendre mes coéquipiers. Ça, c'était un événement. C'était le début. Je venais d'arriver avec l'Armada. Les gars ne me connaissaient pas tant que ça. Donc, j'étais arrivé ce soir-là pour le match. Puis j'ai dit aux gars, j'ai dit, les boys, j'ai dit, si je pèse plus que 155 livres à soir, je pogne le tough l'autre bord. Fait que là, j'ai embarqué sa balance. J'étais 155,7. J'ai un de mes coéquipiers, Raphaël Pouliot, qui est un de mes bons amis aujourd'hui, qui est recruteur pour les Golden Knights à Vegas. J'ai demandé, lui, il avait. Il s'était battu plusieurs fois dans la ligue. Là. Fait que Shaoui, à ce moment-là, il y avait Dylan Donnelly et Arsenault. Fait que, je lui dis lequel tu penses qu'il est le plus top des deux. Et il me dit ah, je pense Arsenault. Fait que, là, étant donné que mon deuxième chiffre, il a ramassé un de mes coéquipiers, là, son casque il avait volé puis tout ça. Fait que, j'ai jeté les gants avec lui. Puis cette soirée-là, celle-là, il a bien, ça, j'ai été chanceux, là, ça a bien été, mais. L'autre d'après, ça n'a pas bien été.
Est-ce que c'était dans le temps que les joueurs juniors, genre, ils y mettent leur viseur en dessous, comme ça, tu frappes dedans puis tu te coupes?
Non.
Non.
Est-ce qu'enlever les bagarres, ça change un... Est-ce qu'enlever les bagarres, ça change un peu la game dans la JMQ?
Je te dirais que pas tant, parce que je te dirais qu'il n'y en avait plus de toute façon. Tu sais, avant qu'ils les enlèvent, il n'y en avait pas vraiment plus que là. Moi, pour moi, j'ai été contre un peu la façon que ça a été fait, parce que ça a été imposé, puis ça n'a pas été des hommes de hockey qui ont pris la décision. Par contre, je n'étais pas contre qu'ils les enlèvent, parce que les gars, le fait qu'il n'y en avait plus, les gars ne savent pas se battre. Puis là, quand je dis « ne savent pas se battre », c'est que... T'sais, moi, quand j'étais arrivé dans la ligue à 17 ans, quand il restait 15 minutes à la pratique, les gants étaient tous sur la glace, puis on se pratiquait à se battre, si tu veux. Mais quand tu dis ça comme ça, ça sonne pas bien, mais au bout de la ligne, le gars qui était habitué de se battre ou les plus vieux, quand tu montes à quelqu'un à te battre, au bout de la ligne, tu le montes à se protéger. Il ne monte pas à donner un coup de poing. Hein, donner un coup de poing, c'est donner un coup de poing. Fait que on se faisait montrer comment se protéger. T'sais, aujourd'hui, mon joueur de 19 ans ne peut pas montrer à mon joueur de 17 ans comment se protéger. Il ne s'est pas battu lui non plus. Là, ça donnait. Fait que là, quand ça l'arrivait, il y avait beaucoup de gars, je trouvais, qui se faisaient mettre KO. C'est pas des KO que le gars reste couché sur la glace, mais on appelle ça des knock-out de jambes, ou qu'ils se font pincer sur le piton puis que les jambes lâchent, mettons. Ça finissait souvent comme ça parce que les gars, ils se protégeaient plus de la bonne façon. T'sais, souvent, ils se battaient. On dit square au gars, face comme ça, au lieu d'avoir ton menton derrière l'épaule puis tout ça. Fait toutes ces affaires-là faisaient en sorte que je n'étais pas contre là, qu'il n'y en ait plus. Pour moi, c'était pas grave. La quantité de bataille qu'il y avait, ça n'avait pas un impact sur la game. Là, fait, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Là. Mais c'est sûr que c'est différent dans mon temps. Là, le nombre de fois que je vois des gars. Mais il y avait des gars qui picossaient quand même dans mon temps. Juste que des fois, il y en a un qui se tannait et il sautait dessus.
Si on a à apprendre à tous les joueurs à se battre, ils devraient tous regarder le film Goon, le premier. Il apprend à se battre en tabarouette dans ce film-là.
C'est bon, fait qu'on va passer au segment Les tirs de barrage.
Les tirs de barrage sont une présentation de Perfo Elite. Pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit seul ou en équipe, hors glace ou sur glace, physique ou mental, et tout ce qui touche le développement global, rendez-vous sur perfoelite.com. Bon tir de barrage.
Tir de barrage, on a une couple de questions à rafale avec toi, puis après on te laisse passer une belle soirée. C'est bon?
Good.
Joueur préféré quand tu étais plus jeune?
Paul Carrier.
Bon choix. Un des jeux que tu prends comme exemple dans les Nash, s'il y en a un, que tu aimerais prendre exemple.
Oh boy, il n'y en a pas, honnêtement. Non. Okay. Non. Je regarde, honnêtement, je regarde pas beaucoup la Ligue nationale. Je veux dire, je vois 5 à 6 games de hockey par semaine. Quand j'arrive chez nous le soir, je me dis pas, ah, bon, je vais regarder. Des fois, je fais d'autres choses.
Foursome de golf de rêve.
Je jouerais avec Paul. Mm-hmm. Ça, c'est une bonne question, ça. Wayne Gretzky. Mm-hmm. Puis Bobby Orr, je pense.
C'est ça bon. M'aurait étonné que tu dises Scott Stevens avec la mise en échec qu'il a faite.
J'avais son numéro, donc ça aurait pu.
Un événement sportif que tu aimerais assister?
Voir une game de la Coupe Stanley, c'est sûr que j'aimerais ça.
Passe-temps préféré?
En dehors de jouer au hockey, j'aime bien jouer au golf puis jouer au tennis.
Parfait.
Ok. Un sport que tu aurais été faire si tu n'aurais pas été dans le hockey?
J'ai joué longtemps au soccer puis au baseball.
Ok.
Mais j'aurais aimé ça peut-être jouer au football. Finalement.
Okay.
Football, yes. Une de tes transactions que tu es le plus fier?
J'en ai pas beaucoup là, à date, mais c'est sûr que, encore une fois, transaction d'Alexandre Carbonneau et d'Olivier Lemieux, c'est des transactions où que c'est des joueurs qui étaient dans une situation où Alexandre Carbonneau aurait probablement été le gars d'extra là-bas, donc il vient chez nous, puis une chance de jouer junior, puis de se développer. Puis Olivier Lemieux avait un rôle plus secondaire avec Como. Puis lorsqu'il est arrivé avec nous, là, il a eu des bonnes statistiques, il nous a vraiment aidés. Il hein, poursuit sa lancée cette année, déjà rendu avec 8 buts. Puis c'est pas des gars qui m'ont coûté cher, on va dire ça comme ça. Fait que c'est toujours, t'es toujours content. La journée où je vais aller chercher un gros joueur, tu vas peut-être être fier, mais tu vas avoir payé pour, puis tout le monde. La raison pourquoi tu vas payer cher, c'est que tout le monde le sait qu'il est bon. Là, fait que,
Un joueur ou un coach qui t'a surpris pendant ta carrière de joueur?
J'en ai eu plusieurs. Ben Drew, c'est quand même un coach qui est marquant. Même chose avec GF puis Joël. Le fait d'avoir coaché avec Félix aussi, tout le monde a eu travaillé avec Stéphane, même chose. Fait que c'est tout du monde qui m'ont marqué là, dans, autant comme joueur que quand j'ai travaillé avec eux.
Il y avait une question du public, Patrick Côté, qui fonctionne bien avec le segment. Fait que quand tu as choisi ton entraîneur, Mathieu Turcotte, quelle qualité qui t'a convaincu que c'était le bon choix?
C'était vraiment son côté organisé. T'sais, il savait. Il savait où ce qui s'en allait. Il avait la même philosophie que moi au niveau du plan où qu'on était. T'sais, je pense que lorsqu'on était à la recherche d'un entraîneur, on était au début d'un processus où qu'on avait beaucoup de jeunes joueurs prometteurs, mais qu'on le savait qu'ils n'étaient pas encore rendus à dominer la ligue. Là, t'sais, fait que, mais il était conscient de ça. Il était conscient qu'on allait probablement perdre des matchs parce qu'on allait leur donner des responsabilités accrues pour qu'ils se développent. Fait que c'est tous ces éléments-là là, qui ont fait en sorte là, que j'ai jugé qu'on a jugé que Mathieu était notre homme là, pour l'Armada.
Parfait.
Que dirais-tu au jeune Olivier de 16 ans? C'était un message à y passer.
Oh boy. je sais pas, bonne question. Continue à travailler, longe pas. Maintenant, c'est ça que je fais. Je veux dire, je m'arrange pour mériter ce que j'ai. Je travaille fort pour obtenir pour atteindre mes objectifs. Puis, c'est un peu ça le message que j'ai lancé.
Parfait. Puis la dernière, que pouvons-nous te souhaiter pour la suite?
Ben, la coupe Louis Courteau, évidemment. C'est quelque chose qu'on travaille tous les 18 directeurs généraux là, dans la Ligue. C'est un peu la mission là, peut-être à différentes années, là, mais on a tout l'objectif là, de remporter un championnat. Donc, je pense que de mon côté, c'est ça. Puis de peut-être nous souhaiter là, que les fans reviennent un peu plus. Là, à Blainville-Beaubriand, parce qu'on a vraiment des joueurs là, électrisants. On a une équipe qui marque beaucoup de buts, qui sont fun à voir jouer. On a Justin Carbonneau qui risque d'être repêché première ronde. On a Xavier Villeneuve l'an prochain qui risque aussi d'être un choix dans le repêchage de la Ligue nationale. On a Mathéo Nobert qui a une saison extraordinaire qui, encore lui aussi, risque d'être repêché de la Ligue nationale. Donc, Les gens ont l'opportunité de voir ces jeunes-là. Il y a une proximité qu'ils peuvent avoir avec ces jeunes-là que des fois, c'est un peu plus dur à aller chercher avec des joueurs professionnels. Donc, je pense que ça, c'est ça que le monde peut nous faire. Là, parce que si on veut que l'organisation reste là longtemps, c'est sûr qu'on va avoir besoin que le monde revienne à l'aréna.
Parfait. Avant de terminer, trophée Gilles Courteau ou Coupe Memorial?
À Coupe Memorial, ça, c'est
sûr. Ah ouais, okay.
Mais surtout que nous, dans la situation qu'on est ou qu'on la, on la reçoit pas, pour gagner la Coupe Memorial, il faut qu'on ait gagné la Coupe Gilles Courteau.
Ah, c'est une bonne façon de passer, ça.
Merci beaucoup, Olivier, pour cette heure. C'est vraiment intéressant d'apprendre à te connaître plus. On va te souhaiter un bon restant de saison.
Merci beaucoup.
Merci, salut.
Salut.
Yes, très intéressant. On a-tu d'autres choses à rajouter avant le bref ou on rentre dessus?
À part que ça a été intéressant, on est à eux de faire le staff de l'Armado au complet. Écoute, ouais. Si je peux avoir Xavier Villeneuve.
Ah, mais on l'a eu l'autre fois. On l'avait eu la saison passée.
Ah oui?
Ben oui. Tu te rappelles pas?
Non. Oui, je vais aller écouter ça ce soir.
On y avait donné des quick feet.
Ah ben oui, ok, oui, c'est vrai.
C'est good, donc on va rentrer le ref tout de suite.
C'est la fois. Fait que là, je vois quand il est arrivé, là, il a mis son stick en
tout. Ben, il a mis son bon temps, il l'a poussé ce jour-là. Il l'avait la porte. T'as mis le bon vidéo, ouais.
Yeah, je me suis pas trompé. Hey, ça va bien les boys?
Oui, toi.
Oui, ça va très bien, merci. Il s'est passé quoi de bon? Qu'est-ce qui s'est passé de bon cette semaine dans le monde du sport? Bon, écoute, on va commencer avec le Rocket. Rocket, 3 matchs. Mais pour la première fois, le Rocket en a perdu 2. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Rien de bon là-dedans. Ils se sont repris. Hier, ils ont gagné 3-1. Joshua Roy, 1 but, 2 passes dans la victoire. Sinon, on va se...
Question du jour, il n'y a personne qui a répondu, mais toi, c'était quoi? Hein?
Moi, je vais répondre. Non, il est trop tôt pour paniquer. Il ne faut pas paniquer. Il y a un plan. Le plan, là, c'est pas gagné cette année. C'est pas ça, le plan. Le plan, c'est... Tu vas voir, ça s'en vient. Ça s'en vient. Les bons jeunes s'en viennent.
Patrick Laine.
On va en voir. Ben, Patrick Laine, ça va donner un peu de punch. Là. Ouais. Mais il manque un deuxième centre. Okay? J'adore Jake Evans. Sauf que Jake Evans, ce n'est pas un deuxième centre. Le deuxième centre des Canadiens de Montréal, ça va être Owen Beck. C'est juste qu'il faut lui laisser le temps de passer au moins une saison complète à Laval, peut-être une saison et demie. Okay? Mais le deuxième centre des Canadiens qui va faire produire Cole Caulfield ou un Patrick Laine à sa droite, c'est Owen Beck. Okay? Ah ouais. Soyons patients.
Hot take de fou, ça. La première équipe qui a appuyé sur le bouton panique, c'est Boston. Leur coach est déjà
tu es en train de m'enlever des sujets. C'est supposé être mon segment, c'est supposé être moi qui parle. Puis là,
On parlait de bouton panique.
Oui, je sais, Boston a paniqué. Mais bref, c'est ça. C'était-tu le bon choix? Moi, je pense pas. Je pense pas que le problème à Boston, c'était Jim Montgomery. Le problème à Boston, c'est qu'écoute, ils ont perdu des gros joueurs d'impact qui n'ont pas été capables de remplacer. Bref, bon, Jim Montgomery, congédié par les Blues de Boston, six jours plus tard, engagé par les Blues de Saint-Louis. Je me souviens pas d'avoir vu ça déjà. Si court, tu sais, un laps de temps si court entre qu'un gars se fasse congédier et qu'il se fasse engager. Pardon?
J'avais vu une photo, justement, les trois derniers que Boston ont fire, là, c'est quoi?
Renvoyé. Congédier.
Ouais. Congédié. Ben, il y a Claude Julien, genre 7 jours après, il est engagé. Bruce Cassidy, 8 jours après, il est engagé. Puis là, Jim Montgomery.
Oui, c'est ça, c'est parce que c'est des bons entraîneurs. Puis, mais tu sais, c'est parce que. Le problème à Boston, il n'est pas en arrière du banc. Écoute, Canelli, il y a mèche courte. Puis c'est pas parce que là, ils ont un début de saison qu'on va dire so-so. Il n'est pas mauvais leur début de saison. Il est juste so-so. Écoute, il aurait pu ramener la barque. Parce que regarde, il y a encore Brad Marchand comme leader, Pasternak est encore là. Ils ont des jeunes qui poussent. Est-ce que là, le problème, là, t'as peut-être une grosse tête là, des buts. Là. T'sais, l'an passé, Swayman, il y avait Hallmark pour lui pousser dans le cul. Mais là, cette année, il y a qui? Il y a Corpissalo. Corpissalo, c'est pas un premier. Tandis que l'an passé, avec deux premiers, mais là, il se battait. Puis là, ben, Swayman, il a fait la grève, là, mais il a boudé un peu en début de saison. Fait que, écoute, le problème, il part de là, mais moi, je suis sûr que Jim Montgomery aurait rétabli les choses correctement. Bref, on va passer au CF Montréal. Pourquoi je parle du CF Montréal? C'est qu'eux autres, ils ont fait un ménage. Sauf qu'eux autres, c'est pas au cours de la saison, eux autres, c'est après la saison. Donc, quatre coachs qui ont levé les flags, dont Laurent Simon, un ancien défenseur du CF Montréal, et puis 12 joueurs qui ont été congédiés, à qui on a dit « Ciao, bye, vous revenez pas », dont Joseph Martinez, le meilleur buteur cette année. Sauf que Martinez avait une attitude beaucoup individualiste. Okay? Donc, tu sais, au hockey, un joueur individuel, ça sert à rien. Au soccer, ben, il scorait des buts, gars, sauf que ça amenait une mauvaise ambiance dans la chambre. Il y a eu une coupe au Québec hier. Vous êtes au courant de ça, boys?
La coupe Vanier?
Oui, le Rouge et Or. Le Rouge et Or, donc, qui a remporté la 12e coupe Vanier de leur histoire. Et c'est ça. Écoute, ça fait c'est tout un autre. Deux autres pour les Carabins. Bref.
L'an passé, c'était Carabins, il me semble?
Non, pas l'an passé, mais oui, les Carabins ont gagné là, quelques années, là, ça fait pas tellement longtemps.
Ah, ok.
Fait que là-dessus, on va passer à l'ovation du F.
Une fin, Veilleux s'amène. C'est le qu'on va le prendre.
Quel tir de Veilleux! Batters gaffe, Veilleux marque, c'est 3-0.
On va le forcer à passer à Bourroche, un tir bloqué, retour. Et quel arrêt de Blackburn!
Komarov la fin, ça va en son but. Incapable de tirer quand on ne file de revient. Et but!
Bien créé par Poirier. De l'autre côté, la passe. La flot.
Oh! Et le but! Quel but!
Rapide. Entre, coup vers le filet.
Oh, wow!
Oh, wow! Simon!
Pardon. Donc, hashtag remplissons les arénas. Le jeu de la semaine, l'ovation du ref de la semaine, c'est pas très, très spectaculaire. C'est juste la concentration du joueur pendant qu'il est marqué. Il est marqué par un joueur des Remparts, parce que ça s'est passé dans le match Drummondville-Québec. Donc, on parle de Yoann Tassé. Yoann Tassé, il est marqué par un défenseur des Remparts, mais par sa concentration, il réussit quand même à faire dévier la rondelle. On regarde ça.
Howard Baudry. Passe à Gauthier derrière le filet, la remise à Oliver, son tir est à la droite du but. Long retour, Woodward réinstalle le jeu de puissance côté droit de la glace. Descend vers le filet, passe devant et le but! Yoann Tassé s'est libéré de Peter Vallant et les voltigeurs créent l'égalité, c'est 1-1. Une passe parfaite. Devant le but, Yoann Tassé réussit à battre le gardien Le Lièvre. Le 21e tir au but des voltigeurs leur permet de créer...
Il s'est tassé de là?
Oui, pendant que... Quelle bonne blague. Bref, pendant que Peter Vallant est en train de le compter, est en train de le tasser de là, finalement, donc c'est ça, Yoann Tassé qui reste concentré, qui met son bâton à terre et qui fait dévier la passe de son coéquipier. On part sur au You Can Do That moment de la semaine?
Let's go.
Oui.
Ah, OK, let's go, on va aller voir ça.
I'll have none of your golf. You can't do that!
You can do that. Bon, c'est quelque chose qui arrive jamais. En fait, très rarement. Il y a un règlement pour ça. Donc, c'est déjà arrivé. Sauf que le You can do that moment de la semaine va à Andrew Brunette, entraîneur des Prédateurs de Nashville. Pourquoi qu'on lui donne le 10 minutes d'antisportif, d'inconduite, de naïveté, d'imbécilité, peu importe, appelez ça comme vous voulez, cette semaine, c'est parce que lui, Mr. Brunette, il encercle sur son line-up que c'est Steven Stamkos qui commence. Sauf que Steven Stamkos, il n'est pas sur la glace. C'est le numéro 9 à la place du numéro 91 qui envoie sur la glace. Fait que, bref, ça, c'est même pas une pénalité que l'arbitre donne automatiquement. Le coach au bord, lui, il a été allumé. Parce que c'est le coach au bord qui a fait en sorte que ça, c'est une punition. Parce que le coach au bord, il a dit « Hey, c'est pas le 91 qui est sur la glace, c'est un alignement non réglementaire. » Puis, effectivement, il avait raison. Donc, le 10 minutes à Andrew Brunette, pourquoi? Pour avoir mis le mauvais joueur sur la glace.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important qu'il ait mis le... Moi, je sais, là.
Mais genre... Dans le fond, c'est parce que bon, c'est l'équipe visiteuse. Et puis à ce moment-là, ben, l'équipe locale choisit son alignement partant en fonction des joueurs que l'autre équipe a choisi. Donc, c'est sûr que si tu mets un Stamkos à la glace, ben, ils sont envoyés telle sorte de joueurs, tandis que c'est ça. Et,
bref, c'est que... S'il y en a qui ne comprennent pas quand quelqu'un dit « le dernier changement », c'est exactement ça. L'équipe locale a l'avantage du dernier changement.
Oui, effectivement, effectivement. Fait que Seb, on est rendu aux 3 étoiles de la semaine?
Oui, vas-y.
Donc, les 3 étoiles de la semaine, la 3e étoile, The Third Star, Camille Jean-Tondreau. La 2e étoile, The Second Star, Lina Gagnon. Et la 1e étoile, le First Star, Isaac Boucher. Félicitations aux chroniqueurs de Sur la Bande qui ont les 3 étoiles de la semaine. Sur ce, les boys, je m'en vais me cacher dans les coulisses.
Merci à toute la gang encore des chroniqueurs Sur la Bande. Vous faites un excellent travail. Moi aussi, j'ai sorti un article. Je pense que j'ai sorti des boulamites. Ça faisait 6 mois, je pense que j'avais pas écrit d'article. Merci.
Ça ne méritait pas 1 étoile.
Oh, ben là. Non, non, je parle pas de mériter 1 étoile, mais je trouvais ça intéressant.
Il n'était pas assez long, mais très intéressant.
Ah, mais ben, tu l'as lu? Oui, merci.
Ben oui. J'ai vu, genre, ben, son frère l'avait republié.
Ouais, son frère, son père. Puis,
Non, honnêtement, je l'aurais lu pareil. Là. Je suis intéressé par sa carrière.
On va essayer, Mathieu. Alors, dimanche prochain, 19h, on reçoit un autre ref. Il va remplacer Claude Nors. C'est Sylvain Lausier, il est arbitre dans la LHJMQ, il a fait la Coupe Memorial, on le voit avec un chandail des Pats en arrière. Ça va être très intéressant d'avoir son point de vue aussi.
Juge de ligne ou...
Je pense qu'il fait les deux. Okay. Je check, mais il me semble qu'il a fait les deux dans la LHJMQ. Donc, ça va être très intéressant. Merci encore à nos 3 commanditaires. Un très bon épisode d'1h10. C'est pas mal ça. N'oubliez pas de vous abonner. Là-dessus, on se dit à la prochaine.
Yes, sir. Salut tout le monde.